Merci de m'avoir invité à ouvrir ce colloque. Je ne suis pas un spécialiste de Michel Foucault, mais je pense que dans la mesure où le IAC, donc l'Institut d'anthropologie du contemporain, a inclus, disons, toute une série de recherches qui sont animées, notamment par Philippe Artière, sur ces questions du rapport entre le livre, la philosophie et pourquoi pas l'anthropologie, il était important que j'intervienne et peut-être pour aussi lancer un débat qui me paraît ouvert. On parlait de chantier, qui est un débat en chantier au fond sur le rapport entre philosophie et anthropologie, un débat qui n'a pas été vraiment mené d'ailleurs à l'intérieur de l'école des hautes études et qui, bizarrement, s'est peut-être plus mené ailleurs, et c'est une question, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qu'en France. Et alors ça nous ramène justement à la question de la façon dont l'œuvre de Michel Foucault a été reçue, et justement à la portée au pouvoir de l'écriture, et peut-être aussi aux stratégies même d'écriture. Je pense qu'il y a deux aspects, moi, qui me paraissent intéressants par rapport aux recherches que moi-même je mène sur les questions d'anthropologie politique. Il est évident que Michel Foucault est un auteur incontournable, mais en même temps, quand vous regardez justement ce qui a été écrit, les fameux 10 écrits de Foucault, finalement, il y a très peu de choses qui sont directement consacrées à l'anthropologie. Et ce qui est intéressant, et c'est là où on va parler de stratégie, c'est que quand Michel Foucault s'exprime sur l'anthropologie, il s'exprime une première fois dans Les mots et les choses. Donc il y a tout un passage qui est consacré notamment au structuralisme, à Lévi-Strauss, et qui est bien connu sur ce qu'on a appelé aussi l'anti-humanisme théorique. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, il y a un autre moment où Foucault s'exprime sur l'anthropologie qui est reporté dans cet ouvrage posthume, quoi, ce recueil posthume des 10 écrits, et qui est une conférence prononcée à Baïa. Conférence qui n'a jamais paru du vivant de Foucault en France. Donc vous voyez, c'est déjà intéressant. Et c'est là qu'il s'exprime très clairement, précisément, sur celui qui était le maître d'anthropologie de son temps, qui était Lévi-Strauss. Et il s'exprime d'une façon extrêmement critique, voire presque violente, à propos à la fois de l'anthropologie et de la psychanalyse. Et sa conférence est centrée sur la notion de loi. Et il dit, les psychanalystes continuent toujours de considérer chez eux, je le cite, que le signifié du pouvoir, le point central, ce en quoi consiste le pouvoir, est encore la prohibition, le fait de dire non, encore une fois la formule « tu ne dois pas ». Et donc sa critique des psychanalystes, mais aussi des psychologues et des sociologues et des anthropologues, c'est ça concerne finalement l'assimilation qu'ils font au pouvoir et à l'espace de la règle et de la prohibition. Et lui dit, cette conception du pouvoir a été à la fin du XIXe siècle formulée incisivement, largement développée par l'ethnologie. Et cette discipline n'a de cesse, selon Foucault, d'identifier système de pouvoir et système de règles. Et bien entendu, qui dit système de règles pense à l'œuvre de Lévi-Strauss et au cœur de cette œuvre qui est la question de la prohibition. Et pour lui, au fond, cette anthropologie qui l'inscrit dans la lignée durkheimienne est de part en part une anthropologie politique puisqu'elle véhicule, au fond, une théorie implicite du pouvoir. Et si l'objet explicite du structuralisme anthropologique de Lévi-Strauss et la parenté et l'alliance, en réalité, pour Foucault, au fond, ce qui est important, c'est la manière dont il impose une idée de règle, une idée de loi et une forme de ce que Foucault appellera aussi juridicisation du politique. Et donc, il y a tout cet aspect de, si vous voulez, ce repliement, au fond, qu'il observe de la question du pouvoir sur la question de la loi, sur la question de la prohibition, alors que lui pense qu'il y a une autre façon de concevoir le pouvoir, une façon de concevoir le pouvoir donc comme technologie, une façon de concevoir aussi la positivité du pouvoir, et il se réfère dans ce texte, qui n'a donc pas été publié en France, à l'œuvre de Pierre Clastres. Et alors ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le même texte de cette conférence de Baïa, il y a toute une réflexion à partir du Capital de Marx. Et il insiste beaucoup sur l'importance du livre du Capital, qui a été pour lui une source d'inspiration extrêmement fondamentale, disons, pour la suite de ses travaux à propos des disciplines, qu'il s'agisse des disciplines de l'atelier, des disciplines de l'armée, etc. Donc, je ne vais pas rentrer, je n'ai pas du tout l'intention de faire une conférence d'anthropologie politique, mais je prends cet exemple simplement pour dire à quel point on voit comment, si on essaye un peu de désenchevêtrer toutes ces pensées qui sont dans les années 70-80, qui vont finalement imprimer une certaine configuration au sens social tel qu'on les connaît aujourd'hui, comment un certain nombre de stratégies, une certaine manière d'écrire, de ne pas écrire, de publier, de ne pas publier, etc., de faire allusion, de ne pas faire allusion, des noms qui circulent ou qui ne circulent pas, tout ça, ça contribue finalement à créer un certain climat. Et pour moi, ça m'a intéressé du fait que du côté de l'anthropologie, justement, et notamment à l'école des hautes études en sciences sociales, il y a eu une espèce de fermeture totale à l'œuvre de Foucault. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai redécouvert, j'avais travaillé sur Foucault et j'avais publié des choses dans Anthropologie de l'État où je me référais explicitement au texte de Foucault, ce qui était assez mal vu du côté des anthropologues français. Alors que quand je suis allé aux États-Unis, entre-temps, mouvement inverse, c'est-à-dire que toute cette œuvre de Foucault avait été réceptionnée par les anthropologues et était devenue un élément capital, en fait, de la réflexion de l'anthropologie, quelle que soit l'interprétation qu'ensuite il donnait de cette œuvre. Ce que je veux dire, c'est que c'était devenu un pôle notable. Et plus intéressant encore, si on y réfléchit, c'est ceux qui ont réceptionné cette œuvre de Foucault de l'autre côté de l'Atlantique étaient des élèves de Geertz. Or, Geertz, donc un grand anthropologue américain, qui est mort il y a quelques années et qui a été un des chefs de l'école dite interprétative. Et Geertz se réfère explicitement dans ses travaux à l'œuvre de Ricoeur. Comme vous savez, entre Ricoeur et Foucault, ça ne passait pas tellement, ce n'était pas du tout le même ordre. Mais là aussi, vous avez des croisements là, qui s'opèrent, et ce qui est pour, je pense, le travail qu'on essaye d'effectuer sur ce rapport du philosophe au livre, et des livres du philosophe à nous, au fond, ça pose au fond la question de la manière dont une œuvre qui prend une ampleur, je dirais, mondiale, une ampleur devient une œuvre en quelque sorte globalisée, parce que Foucault est un des esprits, au fond, qui, bien que d'origine française, est maintenant pratiqué un peu partout dans le monde, et la manière dont il y a d'une part une circulation très intense qui correspond à cette globalisation, une circulation des textes, une circulation des discussions, des colloques, etc., et puis, à côté de ça, une sorte de diffraction en fonction précisément des contextes. Et comment, et là j'ai pris l'exemple, c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'anthropologie, qui est un petit aspect des choses, comment une œuvre donc qui a cette portée mondiale peut, selon les contextes, être pensée, réinterprétée, comment par exemple, justement dans le cas des anthropologues américains, finalement Foucault leur paraît au prisme de la notion de pouvoir savoir, de la généalogie, enfin c'est ça qui les a intéressés quand ils ont mis en cause finalement la place, la position, l'autorité des ethnographes pour montrer que eux-mêmes, leur conception du vrai méritait d'être interrogée. Et là, ils avaient besoin effectivement de cette pensée de Foucault et ça complétait assez bien les travaux que faisait Geertz de son côté sur l'interprétation et le rôle de l'écriture dans les travaux d'ethnographie. Voilà donc un petit peu comment je me situe un peu dans ce champ et comment j'essaye de voir dans quelle mesure, et c'est un chantier alors assez considérable, aujourd'hui c'est sûr qu'on a affaire à un certain nombre de pensées qui sont des pensées globales au sens où elles sont digérées par des quantités de points de vue et d'horizons. J'étais récemment, je pense, en Chine, par exemple, et j'ai eu des discussions avec des artistes chinois qui ont évoqué, ce qui me paraissait totalement bizarre, et qui ont aussi évoqué Foucault. Pour eux, ça voulait dire quelque chose. C'est pas très bien. Et justement, il y a de tels décalages parfois qu'on ne sait pas très bien ce qu'un nom peut évoquer, mais déjà le fait qu'il y ait ce simple nom, première chose, et deuxièmement, le fait qu'on prenne certains aspects de l'œuvre, etc., c'est un phénomène qui, à soi seul, mérite un travail d'approfondissement. Et je pense, c'est pour ça que je suis très intéressé de savoir ce qui se passera dans ce colloque, je pense que tout ça va vers la même, la même idée, le même horizon, qui est de développer effectivement une réflexion autour de cette bibliothèque, de cette pensée, de ces lectures de Michel Foucault. Voilà.
Merci Marc. Je pense qu'on reviendra dans le cours du colloque sur ces effets de lecture, parce qu'évidemment, ils jouent très fortement sur la manière dont on appréhende, ou pas d'ailleurs, l'atelier foucaldien, certains aspects, certains dossiers, et pas d'autres. Je donne la parole tout de suite à Jean-Claude, parce que, disons, merci à Marc d'avoir ouvert le colloque, mais on voulait à la fois l'intégrer dans cette anthropologie du contemporain, et puis aussi dans, au fond, une réalité qui est celle de notre travail de chercheur. Et je crois que Jean-Claude voulait dire deux, trois mots là-dessus avant d'entendre nos premiers intervenants.
Et moi, je me suis gardé la partie la plus facile, en apparence, qui est celle des remerciements aux gens qui ont participé à ce projet. Donc, je dirige aussi un laboratoire qui est une UMR de l'ENS de Lyon. On travaille avec une équipe du GAEC, l'équipe d'anthropologie d'écriture. On a monté ensemble un projet de l'Agence nationale de la recherche. Donc, une collaboration entre une équipe de l'ENS de Lyon et l'équipe de l'EHESS. Et la possibilité, donc, de définir un travail autour d'une problématique, d'un objet, d'une envie, d'un désir de recherche. Quoi. Donc ça, c'est le premier élément que je soulignerai. C'est que ce qu'on a fait pendant maintenant 3 ans, ça a été de produire ensemble, après je redirai ce que c'est l'ensemble, toute une série de réflexions, une série de productions, des livres. Je parle de dossier de présentation des mots et des choses, par exemple, le dossier de présentation avec voilà, l'ensemble des comptes rendus, de la réception, c'est à voir avec comment ça a été lu, hein, ce texte-là. Une exposition à la bibliothèque municipale, à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu à Lyon, voilà, c'est en Provence, mais enfin bon, voilà, c'est à côté de l'ailleurs, archives de l'infamie. D'autres dossiers de ce type qui lui sont en train d'être produits, celui du dossier de réception de surveiller et punir, un site web permettant d'interroger une base de données qui a été conçue à partir d'un don, le don que Daniel Defer nous a fait, du dossier de préparation des mots et des choses, c'est des fiches. Toutes ces fiches manuscrites de Foucault quand il était à la bibliothèque, quand il travaillait, quand il prenait des notes, tout ça va être à disposition de l'ensemble de la communauté scientifique à partir de la début de l'année prochaine. Voilà, travailler ensemble avec donc des chercheurs d'horizons différents, d'institutions différentes et de statuts différents, c'est aussi un point intéressant. C'est-à-dire que dans cette équipe-là, il y a des chercheurs, avec marqué chercheurs, des enseignants chercheurs, des gens qui travaillent comme profs dans l'enseignement secondaire, qui par exemple demain devront déplacer leur horaire d'intervention pour venir après leur cours, mais qui ont passé une partie de leur temps à produire à l'intérieur de ce projet de recherche. Des gens qu'on désigne habituellement comme le personnel d'accompagnement de la recherche, sans lesquels on ne ferait rien, c'est-à-dire du secrétariat, des administratifs, des secrétaires généraux, c'est-à-dire quelques noms à dire ici, des que je connais parce qu'ils sont dans mon équipe, mais d'autres que je ne connais pas, mais que les gens d'ici connaissent bien, donc Nicole Letou, le secrétaire de l'équipe anthropologie de l'écriture, Annie Telias, Liac, Pascal Allais, de Triangle, des ingénieurs qui ont participé activement à la réalisation des outils qu'on vous présentera demain. Et voilà. Donc il y a cet ensemble-là. Et puis, il y a donc quelque chose qui dirait, en gros, travail collectif, quoi. Collectif, hein. Collectif avec cette richesse de l'apport mutuel de ces différentes catégories de personnes. le troisième point, c'est à la fois une chose sur laquelle je veux dire un grand merci à deux personnes qui ont été doctorants payés sur crédit ANR et qui ont joué un rôle déterminant dans le projet. Jean-François Bert et Luca Paltrinieri, qui vous entendrez tous les deux demain. Et je voudrais dire que c'est à la fois une grande tristesse, à la fois un grand plaisir d'avoir pu travailler avec eux, une grande tristesse parce que le système de fonctionnement de l'université française telle qu'elle est sous injonction d'excellence et de productivité et de résultats. Elle produit, la preuve c'est qu'on produit, mais elle produit aussi de la précarité et ça, ça coince un petit peu, il faut le dire. Je crois que c'est la responsabilité des gens qui font la direction de la recherche, les directeurs d'unité, les directeurs d'institution, de dire. C'est bien que pendant 3 ans, on puisse payer quelqu'un sur des projets ANR. C'est moins bien que quand il y a un poste de socio-anthropo dans un endroit, il y a 137 personnes qui se présentent et qu'il y en a quelqu'un qui soit pris. Ouais. Ouais, je crois qu'il faut le dire clairement, et je le dis clairement. Ouais, je le dis clairement, ici c'est facile de le dire, mais je le dis aussi dans les endroits où ça fait peut-être grincer un peu plus de dents. Voilà. Donc voilà, je voulais dire tout ça. Je voulais aussi remercier voilà, les institutions qui ont participé avec nous, donc l'Institut national de l'audiovisuel, l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine, la Bibliothèque nationale de France, à l'IMEC, spécial souvenir à José Ruiz, qui nous a vraiment accompagnés du début, même si maintenant il n'est plus à l'IMEC, ouais, il joue un rôle. Et, remerciements également aux équipes techniques de l'EHSS. Ouais. Donc, c'était ça que je voulais dire. Collectif, projet, désir de recherche, et puis mettre en évidence à la fois les limites hein, et des mots un peu plus rudes à utiliser sur qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'injonction d'aller chercher les ronds hein, et dans le fait que les crédits récurrents et le fonctionnement réel des budgets des laboratoires soient ce qu'ils sont. Voilà. Maintenant, la science, c'est fini sur le projet.
Merci Jean-Claude et merci d'autant plus. Je crois que c'était pour nous très important. Je dis nous, enfin, je suis là, mais on pourrait être 6, 8 à cette tribune. Il y en a quelques-uns qui sont là, je pense à Pascal, à Judith, à Jean-François, à Luca, et d'autres qui sont malheureusement devant d'autres publics. C'est important même méthodologiquement de situer la manière dont on travaille. Parce que le travail, ça va être ce qui va nous occuper, au fond, pendant ces 3 jours. Le travail, alors je ne sais pas, Dina n'est plus là, mais je ne sais pas s'il est intellectuel, savant, mais en tout cas, je sais que c'est du travail. Et qu'est-ce que c'est que travailler sur le travail, enquêter sur le travail de quelqu'un comme Foucault, sans se poser même la question de savoir comment nous, on travaille là-dessus. Ça a été notre première, réflexion, et c'est pour ça aussi qu'on avait souhaité que Marc ouvre au-delà de la question de l'institution, c'est-à-dire, au fond, c'est d'abord une série d'actes qu'on cherche à identifier. Évidemment, cette question du travail et du travail intellectuel savant, elle n'est pas, inédite, elle ne nous est pas propre, hein, c'est quelque chose, je dirais que c'est une dynamique ancienne, lourde, quasiment identifiante à l'école des hautes études et, d'une certaine manière, dans l'ensemble de nos chantiers, en tout cas en France. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? Quelles sont les intentions, au fond, de ces 2 jours et demi, à la fois de présentation et de discussion ? parce qu'on va parler, même si sur le programme on n'a pas fait une ligne pour discussion, mais il y aura, enfin, l'idée c'est quand même de discuter, donc de faire des présentations relativement concentrées pour pouvoir justement dialoguer. Depuis 3 ans, donc, un groupe de chercheurs à Paris et à Lyon ont entrepris d'enquêter sur des pratiques savantes d'une des figures les plus marquantes de l'après-guerre, Michel Foucault. Cette recherche, il faut le rappeler, visait à construire des outils pour tenter d'étudier l'atelier foucaldien. Foucault, contrairement à d'autres auteurs, on le verra largement demain, fut très avare en explications sur ses pratiques. Il n'a pas ou très peu parlé du derrière de la tapisserie, comme il le nommait. Pire, même, il a eu tendance à le masquer. Ainsi, Foucault ne fit jamais grand cas de ses manuscrits et, de ce point de vue-là, ne constitue pas, à la différence d'un Roland Barthes, un client sérieux pour la génétique textuelle. Restent donc des archives de travail, j'ai envie de dire des archives de recherche, des centaines de notes qui composent comme le lieu du travail de la pensée. Et c'est une investigation de ces lieux que nous avons tenté, ce que nous avons appelé la bibliothèque foucaldienne. Il ne s'agissait pas de peindre un philosophe au travail, de figer à nouveau la figure, mais plutôt de construire des outils permettant d'entrer dans l'atelier, peut-être de casser une certaine représentation, de décrire les objets, instruments et supports qui l'habitent, bref, d'abord de dresser une carte qui permette à d'autres d'avancer. Et si ce travail est collectif, c'est que, évidemment, l'idée est de travailler avec la communauté scientifique foucaldienne et, disons, l'ensemble des gens qui travaillent à partir de cette pensée, qui est, contrairement à ce que le colloque, là, qui est très français, donne à penser, une communauté absolument globalisée, comme tu l'as dit, Marc. Nous nous sommes donc intéressés à un non-dit du travail d'un intellectuel, un ensemble de gestes qui sont le plus souvent passés sous silence, oubliés même, et en cela, nous rejoignons la perspective de Christian Jacob, qui parlera dans quelques instants. Nous avons aussi focalisé notre attention sur la routine, ce qui était évidence, à commencer par la première d'entre elles, et c'est pour ça que nous avons appelé ce colloque ainsi. Le philosophe, il lit des livres. Mais qu'est-ce en somme que lire pour un grand lettré du XXe siècle comme Foucault? Comment, où, avec quoi? Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les études de l'histoire culturelle, à commencer par celle de Chartier, ici, nous ont amené à travailler sur les traces de lecture. Nous avons ainsi cherché à produire des outils cognitifs pour pouvoir poser des questions philosophiques à ces traces sur des fiches jaunies. Singulière expérience pour des chercheurs habitués à chasser l'événement. D'autant plus devrions-nous dire que notre exploration, que se caractérise par un recours d'une part, on n'en a pas encore parlé, à des témoins, et d'autre part, Jean-Claude en a dit quelques mots, à des outils informatiques, et avec des outils informatiques, à des ingénieurs informatiques. Je le dis parce que Samantha est arrivée il y a quelques minutes. Nous avons en effet procédé en interrogeant celles et ceux qui ont été les témoins des travaux du philosophe, partagé un séminaire, qui ont écrit un livre ensemble, ou même croisé le philosophe lors d'événements singuliers. L'archive a souvent été accompagnée d'un discours de souvenir. Daniel Defer, qui, je crois, viendra à un moment donné pendant ces journées, et dont on voudrait saluer la générosité et la disponibilité, nous a, de ce point de vue-là, aidé tout en ajoutant, et vous le verrez, une couche supplémentaire l'opération de travail qu'on était précisément en train d'essayer de décomposer. D'autre part, nous avons procédé en travaillant dans une perspective qui était pluridisciplinaire, historien, sociologue, philosophe, et associant donc des ingénieurs informaticiens. Vous verrez que nous n'avons pas fait semblant de ce point de vue-là, ni de numériser l'ensemble des archives. Je crois que Jean-François a passé quand même une grande partie disons, la première année devant un scanner. Et ça aussi, ça fait partie de la recherche. De se plier au carcan de l'informatique. En organisant ces journées, notre objectif était donc quadruple. Restituer d'abord à la communauté scientifique l'ensemble des informations dont nous disposons aujourd'hui sur Foucault au travail, soumettre des premières hypothèses de lecture qui s'en dégagent, troisièmement, éprouver ces premiers résultats aux collègues spécialistes de Foucault, mais aussi aux spécialistes de l'histoire intellectuelle. Enfin, et l'enjeu me semble de taille, essayer de dessiner, même imparfaitement, l'esquisse d'un portrait d'un grand lettré du second XXe siècle en France, en proposant de ce point de vue-là à d'autres collègues qui avaient travaillé avant nous et qui travaillent parallèlement, de présenter ces cas. C'est ainsi que vous entendrez un certain nombre d'interventions dans les jours qui viennent, mais c'est aussi pourquoi nous avons demandé à Jean-Louis, qui interviendra après Christian Jacob, de venir nous livrer disons son analyse, d'autant que Jean-Louis, et tu nous en diras plus, sort un ouvrage précisément sur cette question de la philosophie en France. Il va de soi que le projet était à la fois risqué et difficile. Risqué tant, nous sommes attachés, voire liés à la figure de Luther. Il n'y a qu'à voir encore tout récemment la manière dont les archives d'un chercheur sont d'une part conservées dans une institution et celles de son laboratoire dans une autre. Je pense qu'on pourra en parler. Difficile aussi, tant ce type d'enquête est coûteux en temps et en énergie, d'écrire une à une les items d'une liasse, valider les informations qu'elle contient, tout cela c'est très long. Ça demande des opérations très minutieuses et sans doute Luca et Jean-François parleront de cette manière dont on remplit et dont on valide des informations dans des bases de données. Autrement dit, nous avons refusé de céder à une certaine facilité pour opter pour une entreprise modeste. Vous verrez que les résultats ne sont pas... ça brille pas, mais disons profonde et durable. Il ne sera pas question donc de grands inédits, mais de ce qui se passe à la trappe de l'œuvre, de ce que les biographes ne retiennent pas, de ce qui constitue le cœur de notre activité aussi à nous, c'est-à-dire chercher.